bonjour à toutes, bonjour à tous. Les philosophes aussi ont leurs secrets. Amour, sexe, crime, politique, drogue et métaphysique. Début aujourd'hui d'une série haletante sur les secrets d'alcôve aux conséquences redoutables de Maurice Blanchot, Saint-Simon, Sigmund Freud, Albert Camus et pour commencer, Louis Althusser. Philosophe marxiste et vénéré comme un maître dans les années 70, qui reste connu aujourd'hui aussi pour le meurtre de sa femme Hélène. Écoutez, c'était le 16 novembre 1980.
Il est 13h sur France Inter.
L'affaire Althusser, car c'est sûr maintenant, affaire il y a, Louis Althusser s'accuse du meurtre de son épouse. Hélène Althusser est morte dans la nuit de samedi à dimanche dans l'appartement que le couple occupe à l'école normale supérieure à Paris, mais la femme du philosophe marxiste est décédée dans des circonstances qui restent mystérieuses. Aucune trace de violence n'a semble-t-il été relevée sur le cadavre, une autopsie a quand même été ordonnée, et l'affaire rebondit donc maintenant Antoine Sanchez avec les déclarations de Louis Althusser qui, quelques heures seulement après la mort, a été admis sur sa demande à l'hôpital Sainte-Anne.
Écoutez Alain Bédouet, il faut être très prudent dans cette affaire. Le philosophe est actuellement soigné dans le service du professeur de Nicaire à l'hôpital Sainte-Anne. Et d'après les proches collaborateurs du médecin qui le soigne actuellement, eh bien Louis Althusser reste dans un état de prostration avancée. Et si on dit qu'il s'accuse du meurtre de son épouse, il faut savoir aussi qu'il souffre d'un phénomène psychiatrique dit d'auto-accusation. Alors de là à penser qu'Hélène, sa femme, est morte naturellement à l'âge de 70 ans, il n'y a qu'un pas. Il faut donc attendre les résultats de l'autopsie qui devraient être divulgués peut-être en fin de journée. Pour l'heure, on en restera à trois suppositions. La mort naturelle, donc, peut être la plus plausible, le suicide de l'épouse du professeur, ou bien comme certains veulent bien le laisser dire, mais encore une fois, c'est à mettre au conditionnel, il y aurait eu crime.
Bonjour Éric Marty.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Le secret d'Althusser n'est pas celui d'avoir tué sa femme, même si au moment où l'acte a lieu, on ne sait pas encore que c'est un meurtre, c'est là tout l'intérêt de l'archive que nous venons d'entendre, mais peut-être les raisons qui ont conduit à cet acte, c'est plutôt ça qui relève du secret pour lui.
Les raisons, elles sont totalement dissoutes par Althusser lui-même, par l'écriture en quelque sorte. Et c'est ça qui est peut-être le plus important dans l'affaire Althusser ou dans l'histoire Althusser, c'est cette décision qu'à un moment il prend, en 1985, 5 ans après le meurtre, d'écrire cette autobiographie dans un état à la fois de très grande maîtrise, à mon avis, de l'écriture et de dérapage délirant, de moments de quasi-folie ou de quasi-délire, d'état maniaque dans l'écriture en tout cas. Et dans ce mouvement même d'écriture, toute la question pour Althusser, c'est comment se sortir de cette espèce de détermination absolue d'être un meurtrier. C'est d'arriver justement par l'écriture à déconstruire au fond cette détermination qui est une pure contradiction au fond, parce que un intellectuel communiste ne devrait pas être un meurtrier.
Personne ne devrait être un meurtrier.
Il y a des gens qui sont peut-être qui ont plus, pas plus d'excuses, mais plus de raisons, plus disons de contexte, de justification au fond et de l'être au fond. Un fasciste, on accepte volontiers qu'après tout, il soit un meurtrier, que c'est une chose qui après tout laisse est encore possible. Mais qu'un communiste, qu'un militant du Parti communiste, qu'un militant...
Il y a beaucoup de violences qui ont été effectuées au nom du communisme.
Oui,
quand même.
Mais ce sont des violences justement qui sont dissoutes par la dimension collective de l'acte, par l'eschatologie, par le but final, au fond, du communisme. Et leur sens, ça n'a pas de sens. Au fond, l'exécution de tel ou tel militant communiste, Paul Nizan, qui est liquidé, enfin, qu'on calomnie, etc. Tout cela ne perd son sens spécifique par le fait que c'est pris dans la grande dialectique de l'histoire et dans le grand projet communiste, alors que le meurtre que commet Althusser est un meurtre individuel qui justement bloque tout ça. C'est une sorte d'énorme pierre, et le mot pierre d'ailleurs est un signifiant très puissant chez Althusser, ne serait-ce que par la pétrification de la folie qu'il s'en empare, par ce prénom Pierre, qui est sur son grand prénom dont il use comme pseudonyme. Là aussi, c'est le secret, enfin, dans la vie clandestine de Althusser, il y a aussi des textes qui sont signés de pseudonymes, Pierre Decoux. Bon. En tout cas, ce meurtre est une pierre, en effet, terrible dans le processus, je dirais, du projet même d'une existence d'intellectuel communiste. Et donc, en effet, toute l'écriture va, et sans cela, que c'est un livre très important à mes yeux et un très beau livre, terrible mais très beau, vise justement à, non pas dissoudre, mais à, ni à se débarrasser, mais à jouer avec ou à redistribuer ou à déconstruire cette pierre, cet acte terrible.
Qui était Louis Althusser ? Écoutez le témoignage d'Étienne Balibard.
Il s'est créé autour d'Althusser pendant quelques années une école, un cénacle, si vous voulez, un groupe de disciples. Bon. Alors qu'il y avait un statut un peu hybride, on pourrait dire. Bon. D'un côté, il reposait, il avait un caractère universitaire, on pourrait dire, reposait sur le fait que Althusser enseignait la philosophie à l'école normale supérieure, et que tout naturellement, il constituait un groupe de travail où il avait des projets communs avec certains de ses étudiants. Mais d'un autre côté aussi, évidemment, sur la base d'engagements communs, d'intérêts pour le marxisme, de goûts philosophiques qui se sont rapprochés de plus en plus, ça avait aussi un caractère personnel, on ne peut pas le cacher. Bon, alors ce genre de cénacle suggère que Althusser était quelque chose comme un maître, pour ne pas dire un gourou, qui cherchait des disciples. Quel est le maître qui ne cherche pas de disciples ?
C'était en 2016, au micro de Géraldine Mosna-Savoie, dans la série « À voix nue » qu'Étienne Balibard se confier sur Louis Althusser, il le qualifie de gourou, Éric Marty. Le terme n'est pas trop fort.
Pour ma part, je vois Althusser dans un statut un peu singulier par rapport, disons, aux gourous de l'époque comme Lacan, Barthes, Deleuze ou Foucault, précisément parce que il est communiste, il est membre du parti et c'est un militant. Donc il n'a pas tout à fait cette liberté au fond et ce prestige absolu d'une parole totalement sienne. Il est quand même cerné par le parti, cerné par sa situation d'être membre du parti. Et à mon sens, il y a un détail qui me semble très important, c'est le fait qu'il ait au fond donné ses vrais disciples à Lacan. Les Jacques Anna Miller, les Jean-Claude Milner et autres ont été d'abord des élèves d'Althusser, puis des disciples de Lacan, comme si Althusser n'était pas en mesure d'assumer lui-même la position de maître. Je crois qu'il n'est pas réellement un maître, contrairement à ce que dit Balibar. Mmh. C'est un grand lecteur, un immense théoricien de la lecture des textes de Marx. Est-ce qu'il a une philosophie ? Ça n'est pas sûr. Sauf peut-être sa philosophie finale, après le meurtre, justement, lorsque libéré du parti, il arrive à une forme de matérialisme, ce qu'il appelle le matérialisme aléatoire, une sorte de dispositif qui repose sur une vision elle-même d'ailleurs pas forcément complètement originale, parce qu'elle prend beaucoup à Deleuze, elle prend à Derrida, elle prend un peu partout. Quand Althusser s'accuse d'être un voleur, d'être un imposteur, de ne pas être un penseur, de ne pas être un philosophe, c'est pas complètement faux, même si ce qui n'empêche pas pour moi d'admirer beaucoup l'intelligence très aiguë d'Althusser, mais c'est vrai que sa pensée est faite de beaucoup d'intertextualité, je dirais, générationnelle, et qu'il y a beaucoup de choses prises à Lacan, prises ailleurs. C'est un gourou au sens où il autorise, au fond, des disciples, entre guillemets, Balibar, Macheret et compagnie, à être communistes en toute bonne conscience.
Donc c'est surtout d'un point de vue politique plus que philosophique.
C'est-à-dire qu'il leur permet d'être membre du Parti communiste en ayant le prestige de la théorie. Alors que le Parti communiste est un parti, au fond, où la bêtise règne, fondamentalement, tout de même. Faut se rappeler de ce que c'était, et où l'intelligence est, en quelque sorte, disons, bannie, ou alors vive sur un mode ironique. Althusser est celui qui, par sa double posture, par son double discours, permet à des étudiants, à des jeunes normaliens, eh bien, d'avoir leur carte de parti, et tout en jouissant du prestige, de l'intelligence qu'en effet, Althusser distribue lors de ce séminaire. Voilà. C'est une position très ambiguë. C'est absolument pas la position, justement, de transmission libre d'un maître et du disciple, comme c'est le cas de Lacan avec ses disciples, de Barthes, de Deleuze, de Foucault. C'est plutôt un jeu, je dirais, intéressé, en quelque sorte, d'un petit groupe de jeunes gens de l'époque, avec quelqu'un qui leur sert de transaction avec le monde politique, qui permet de jouer, de transiger, et de s'autoriser, en quelque sorte, d'être dans l'ordre, d'être un bon petit soldat, un bon petit militant, mais d'être à côté de cet homme tellement intelligent, qui parle tellement bien et qui est un grand lecteur.
Et qui Et alors, auteur, victime, on va y venir, c'est le sens de son texte, hein, de cet acte commis le 16 novembre 1980, qui est l'étranglement de sa femme Hélène dans leur appartement de la rue d'Ulm, où il logeait, c'est dire combien ses propres collègues et disciples ont été concernés et interpellés par cet événement, c'est le moins qu'on puisse dire. Votre livre, Éric Marty, s'appelle Louis Althusser, un sujet sans procès. Anatomie d'un passé très récent, on le trouve aux éditions Gallimard, car en effet, suite à l'article 64 du Code pénal, qui affirme qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque l'accusé était en état de démence au moment des faits, Louis Althusser est privé, ce sont ses termes, de son propre procès. De là va naître le récit de son autobiographie.
Oui,
c'est le non-lieu. Complètement, pour le coup, démence en mauvais jeu de mots, scandaleux.
Oui, c'est le non-lieu. Alors c'est en fait très althusserien comme situation. Et d'ailleurs, le titre de mon livre, Un sujet en procès, c'est le renversement du grand concept althusserien du procès sans sujet. Puisque pour lui, vous le savez, l'histoire est un processus, un procès sans sujet, impersonnel, où les hommes ne font pas l'histoire, où ils sont en quelque sorte des molécules du grand processus.
Ce qu'on appelle le matérialisme historique.
Absolument. Et donc, j'ai pensé que c'était amusant, c'était allégorique de mettre un miroir devant cette expression de procès sans sujet et d'en faire justement le destin final d'Althusser, d'être un sujet sans procès, c'est-à-dire suspendu à un non-lieu, impersonnel, n'étant précisément pas condamné par les fameux appareils idéologiques d'État, vous savez, les AIE, à l'époque c'était les jeux d'acronymes qui étaient très althusseriens. Les appareils idéologiques d'État n'ont pas du tout censuré ni condamné Althusser, il y aura échappé. Et donc il se trouve dans un non-lieu qui est au fond un espace assez idéal pour cette écriture, ou l'avenir dure longtemps.
Hein, ou qui est le titre de son autobiographie, l'avenir dure longtemps. Ah. Une fois que l'on a commis un meurtre, mais qu'on n'a pas été jugé, exactement, condamné pour ce meurtre, eh bien l'avenir dure longtemps, pour le pire et pour le meilleur. C'est toute l'ambiguïté qui s'empare du lecteur, absolument, qui lit ce texte magnifique. On va entendre plusieurs extraits aujourd'hui, bien sûr, avec vous, Éric Marty. Mais quand même, on se dit, est-ce que lui-même essaye de se juger parce qu'il n'a pas eu de procès, parce qu'il n'a pas été condamné, cette culpabilité qui devrait s'emparer de lui en permanence est là, mais parfois, lorsqu'il connaît des moments de suspension de cette culpabilité, on lui en veut. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas du tout objectif dans cette histoire.
Non, et l'avenir de longtemps, c'est emprunté au général de Gaulle. C'est dans les anti-mémoires de Malraux que Malraux cite une phrase du général de Gaulle qui lui, justement, dit « il faut agir tout de suite ». Parce que sinon, l'avenir dure longtemps. C'est-à-dire, si on n'agit pas immédiatement, si on n'est pas...
Ah, c'est un problème que l'avenir puisse durer longtemps.
C'est ça, absolument. C'est l'inverse. Il inverse la position de Gaulle. Pour De Gaulle, ce qui est un penseur de l'action, et qui en ce sens est très machiavélien, au sens althusserien du terme, pour lui, il faut agir tout de suite. Car sinon, l'avenir dure longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir, au fond. Mmh. Alors qu'au contraire, pour Althusser, c'est parfait qu'il n'y ait pas d'avenir, parce qu'il dure longtemps, justement, parce qu'il est sans limite, parce que nous sommes, en quelque sorte, dissous dans cette espèce d'état informe. Au fond, plus rien n'est contrôlé ni contrôlable et où le processus d'un processus sans sujet ni fin, à ce moment-là, peut avoir lieu. C'est ça, l'avenir longtemps, c'est une forme de liberté, en quelque sorte, de liberté dans le rien, de liberté dans le vide. Et c'est un petit peu, au fond, ça, l'affaire d'Althusser, c'est comment le fou peut être libre dans sa folie.
Était-il vraiment fou ?
Oui, je pense qu'il a des moments très nets de folie. D'ailleurs, avant le meurtre, l'année 80 est une année absolument démente. Ça commence avec le scandale qu'il fait au PLM Saint-Jacques contre Lacan. D'ailleurs, nous sommes le jour de la Pentecôte, je crois, et c'est au nom du Saint-Esprit, qui est l'autre nom de la libido, que Althusser vient foutre la pagaille au nom des analysants, au nom de ceux qui vont mourir, au nom de ceux qui vont se suicider, qu'il vient mettre la pagaille dans le fameux congrès où Lacan dissout l'école freudienne. Puis ça va être les entreprises de voir Jean Guiton, l'ancien professeur de philosophie de Althusser avant la guerre, qui est une sorte de catholique tout à fait de droite, mais qui adore Althusser, et Althusser vient le voir avec Hélène, tous les deux pris dans un état d'agitation extrême, craignant l'apocalypse, craignant la fin du monde, et demandant à Guiton de pouvoir rencontrer Jean-Paul II, le pape, pour faire une union entre Moscou et Rome. Période donc de folie à deux. Et puis, c'est les derniers jours avant le meurtre, hein, où il y a réellement, je pense, réellement un processus de folie à deux, et où Hélène et Althusser sont dans une psychose commune. Donc oui, la folie, elle ne fait aucun doute.
Comment continuer à penser philosopher, comment continuer à écrire après avoir tué sa femme, c'est la question que l'on se pose et à laquelle Louis Althusser répond dans ce texte, dont voici un extrait. Alors on commence par le plus fort, Éric Marty, par ce qui n'est plus un secret justement, mais qui est le nœud de l'affaire, la description par Louis Althusser lui-même du meurtre de sa femme.
Voici la scène du meurtre, telle que je l'ai vécue. Soudain, je suis debout en robe de chambre, au pied de mon lit, dans mon appartement de l'école normale. Un jour gris de novembre, c'était le dimanche 16 vers 9h du matin. Devant moi, Hélène, couchée sur le dos, elle aussi en robe de chambre. Son bassin repose sur le bord du lit, ses jambes abandonnées sur la moquette du sol. Agenouillée tout près d'elle, penchée sur son corps, je suis en train de lui masser le cou. Il m'est souvent advenu de la masser en silence, la nuque, le dos et les reins. J'en avais appris la technique d'un camarade de captivité, le petit Claire, un footballeur professionnel expert en tout. Mais cette fois, c'est le devant de son cou que je masse. J'appuie mes deux pouces dans le creux de la chair qui borde le haut du sternum. Et appuyant, je rejoins lentement, un pouce vers la droite, un pouce vers la gauche en biais, la zone plus dure au-dessous des oreilles. Je masse en V. Je ressens une grande fatigue musculaire dans mes avant-bras. Je sais, masser me fait toujours mal aux avant-bras. Le visage d'Hélène est immobile et serein, ses yeux ouverts fixent le plafond. Et soudain, je suis frappé de terreur. Ses yeux sont interminablement fixes. Et surtout, voici qu'un bref bout de langue repose, insolite et paisible, entre ses dents et ses lèvres. Certes, j'ai déjà vu des morts, mais de ma vie, je n'ai vu le visage d'une étranglée. Et pourtant, je sais que c'est une étranglée. Mais comment ? Je me redresse et hurle, « J'ai étranglé Hélène ».
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de la vie secrète des philosophes cette semaine et aujourd'hui d'un crime, d'un meurtre, celui du philosophe Louis Althusser qui tue sa femme Hélène et qui décrit ce meurtre dans un texte qu'il publie 5 ans plus tard, L'avenir dure longtemps, aux éditions Stock. Éric Marty, toute entreprise biographique, pose la question de la sincérité de son auteur. Est-ce le récit d'un moi idéal qui se repent et qui, du coup, fait preuve d'une humilité, donc de sincérité? Ou bien est-ce la transformation de ce qui s'est passé à travers le filtre d'un individu qui a grandi depuis ce qui s'est passé, qui a évolué et qui donc voit les choses différemment? La question prend tout son sens lorsqu'il s'agit de raconter un meurtre que l'on a commis.
Bien sûr, et je crois que là, on voit très bien...
Cette page est dingue,
oui,
quand même.
Oui, le passage est... Alors, il est aussi très beau. Enfin,
il est lu par Laurent Lederer, il est très beau et très bien lu. Très bien lu. Il laisse quand même pantois de se dire qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il venait de tuer sa femme. C'est ça que le texte nous dit.
Alors, je crois que c'est le rapport aussi du meurtrier à son propre meurtre qui est en jeu. C'est-à-dire qu'à la fois, le meurtrier, Althusser, évidemment, ne peut pas assumer complètement son acte. Et en même temps, il l'aime d'une certaine manière, parce que c'est lui. Et au fond, la question, c'est encore une fois, comment trouver sa liberté dans ce qui vous a déterminé, qui est la grande question d'Althusser. Comment, au fond, intégrer le meurtre à sa vie comment déjouer donc tous les pièges de la psychologie, du bien et du mal, de la subjectivité. Comment, au fond, le rendre si objectif qui, à la fois, qu'il est vous-même et qui ne vous appartient plus, qu'il y a quelque chose de... Au fond, voilà, je dirais que le dernier mot d'Althusser, c'est le neutre. C'est arriver à une position, à une sorte de neutre de l'événement, au sens bleu-blanc-chaud, au sens de Barthes, de déjouer tous les pièges de la conscience, tous les pièges du sens commun, tous les pièges de l'idéologie, au fond, du bien et du mal, et arriver à neutraliser tout ce que le sens commun, en quelque sorte, pourrait faire de ce meurtre, par une description, en effet, impersonnelle, où le meurtre a lieu sans lui, en quelque sorte. Où le meurtre a lieu par ses mains interposées, mais hors de lui-même. Et le dernier chapitre, qui est absolument fascinant, de l'avenir de longtemps, qui est une sorte de dialogue avec un ami, un vieil ami anonyme, et qui évoque tous les « si » par lesquels le meurtre aurait pu ne pas avoir lieu. Les médecins avaient très bien vu qu'Althusser est dans une phase maniaque extrêmement dangereuse, et une lettre devait arriver pour qu'il soit interné d'office, mais la lettre est arrivée trop tard à cause des vacances.
Sauf une crise de démence.
Pardon ?
Ce qu'il décrit dans ce texte qu'on vient d'entendre est tout sauf une crise de démence. Il décrit le massage qu'il donne à sa femme et tout d'un coup il se rend compte qu'il a tué sa femme.
Alors ce n'est pas une crise de démence au sens de violence, c'est une crise, c'est malgré tout une crise où il n'y a plus conscience de ce qu'il fait. Il est dans une sorte de dédoublement, d'absence à lui-même et d'état. Alors c'est un état de confusion mentale, voilà, qu'on pourrait, si on voulait décrire de manière psychiatrique la chose, c'est un état de confusion mentale et non pas de démence en effet. Mais ce qui est important pour Althusser, si vous voulez, c'est d'être Althusser toujours, au fond. C'est-à-dire d'arriver à faire que l'action, les actes, ne soient jamais produits par une conscience, mais soient des processus, là encore, sans sujet, des processus impersonnels, dont le sens même est dissous. Hein. Barthes parle à propos du Japon et de l'Empire des signes, de l'exemption du sens, de la suspension du sens, du neutre donc en quelque sorte qui habite cet espace moderne. Eh bien, on pourrait dire que Althusser revit le meurtre sous la forme de cette suspension du sens, d'accéder au fond à sa propre philosophie par le meurtre, en dissolvant les caractères, je dirais, qui appartiennent au sens commun et qui relèvent justement d'un jugement.
Accéder à sa propre philosophie, mais aussi à son propre sujet. C'est de lui qu'il s'agit. Voilà. Il essaye de se fonder et d'élucider ce qu'il a pu être avant cet acte et ce qu'il est devenu depuis. Il mène une enquête au moment de rédiger l'autobiographie, il va interroger ses proches, il demande à ses amis de lui envoyer des coupures de presse qui racontent l'événement paru dans les pays étrangers depuis novembre 1980. Il interroge son psychiatre, son psychanalyste, pour essayer de comprendre, alors que s'il doit y avoir une conclusion à ce livre, c'est au contraire la non-élucidation de soi.
C'est ça.
Ce qui est très bizarre.
Il y a, de toute manière, il y a aussi chez Althusser toute une sorte de ruse de la folie. C'est-à-dire que le fou n'est pas seulement quelqu'un qui vit dramatiquement sa folie, mais aussi qui joue beaucoup avec l'humour, par exemple. Il y a un humour du fou. Il y a un humour althusserien qui est extraordinaire, qui déjoue justement ce rapport à la vérité et au faux. Constamment, le texte, pas constamment, mais très très souvent, le texte glisse vers des moments d'incertitude, si on doit prendre au sérieux ce que dit Althusser ou pas. Ça peut être très banal, par exemple, à un moment il défend l'URSS, en disant « Oui, l'URSS est très bien, les gens ont le droit à travailler, d'ailleurs ils sont très heureux, et puis d'ailleurs les flics ne veulent même pas entrer dans les usines parce que les ouvriers volent des outils ou volent des produits, les revendent au marché noir, et donc l'éloge de l'URSS qui était au début était un éloge parfaitement orthodoxe, communiste, tout va très bien, se transforme peu à peu en un éloge qu'on pourrait appeler carnavalesque. Et c'est une notion que j'ai introduite dans ce livre, qui est bien connue, mais le carnavalesque est aussi, pour le fou, le moyen de déjouer justement le blocage du sens. Parce que il sait très bien que sa folie, au fond, est une folie stéréotypée. Le maniaco-dépressif, il vit des périodes très stéréotypées de comportemental. Comment s'en sortir par rapport à ça? En quelque sorte, en revendiquant une forme de liberté qui passe non pas par le moi, par une défense, d'un sérieux du sujet, mais au contraire, en allant encore plus loin dans cette dissolution. Et le carnavalesque, qui est omniprésent donc dans le livre, l'avenir de longtemps, est cette manière d'introduire par l'humour délirant, l'humour, le grotesque, la folie, le délire, le dérapage, et y compris dans l'écriture, il y a constamment des brisures dans la phrase, des cassures, ce qu'on pourrait appeler des parataxes, c'est-à-dire une absence de liaison entre les événements. Il y a cette volonté, au fond, de dissoudre la vérité, de dissoudre le concept de vérité, en même temps le concept de sujet, précisément par le carnavalesque de l'individu. Et en ce sens, pour moi, je ne comprends pas pourquoi, par exemple, les Althusseriens ont été tellement rétifs et ont voulu même empêcher la publication de l'aviseur de longtemps, des lettres à Franca, des lettres à Hélène, parce qu'au fond, c'est l'application totale de la pensée d'Althusser.
Mais il ne l'a pas publié de son vivant, on peut le dire ça aussi, voilà. Il a été publié après sa mort.
Et ça encore, c'est althusserien, parce que c'est encore quelqu'un d'autre qui le fait à sa place. C'est-à-dire que ce n'est même pas lui comme sujet, sa subjectivité n'est pas engagée au fond de la publication, ce sont d'autres, incertains, aléatoires. C'est au fond les circonstances qui font que le livre paraît, ce n'est pas lui. Il y a toute une façon justement de disparaître, y compris dans la publication, qui est profondément althusserienne. Et pour moi, je vois tout à fait une forme d'unité entre l'Althusser, je dirais, entre guillemets, de l'ENS, de l'École normale supérieure, de pour Marx, et l'Althusser de l'avenir dans longtemps. Une unité très profonde qui, évidemment, du coup, met de côté l'idéologie du parti, enfin le militant, mais qui est forte, parce qu'elle va dans le sens, justement, d'une sorte de rapport au monde, de rapport à l'existence, de rapport à soi, qui est une unité, qui forme une unité.
Et pourtant, il ne cesse de décrire son rapport à l'existence comme étant un rapport à la non-existence. C'est ce qu'il y a de très fort dans cette autobiographie, qu'en est quand même une, même si elle n'a pas été publiée de son vivant par lui-même. C'est que tout porte à croire que lui-même veut prouver qu'il n'existe pas. Il va jusqu'à expliciter ce meurtre, parce qu'il donne des raisons quand même au meurtre de sa femme, comme étant la meilleure façon qu'il a trouvée de se débarrasser de l'ultime preuve, la plus haute preuve, dit-il, de son existence, à savoir l'amour d'Hélène pour lui-même.
Oui, mais c'est aussi un fantasme de l'époque, au fond, que tous les grands, je dirais les modernes en quelque sorte, sont aussi dans ce rapport justement très anti-subjectivisme, contre l'auteur, contre le moi, contre l'individu. Il y a aussi une façon de se voir comme texte, c'est-à-dire de voir sa propre vie comme texte. C'est très frappant chez Barthes, mais c'est frappant aussi chez les autres, chez Deleuze, chez Lacan. Il y a cette façon de disparaître comme individu, je dirais, comme sujet naturel, dans un espace de textualité qui est en plus ancré historiquement dans l'époque, avec des échos, avec des reconnaissances, avec des dialogues, et donc d'être en quelque sorte, d'exister dans l'inexistence individuelle. Je crois qu'en ce sens, Althusser est aussi pas seulement cohérent avec lui-même, y compris dans le meurtre et après le meurtre, il est cohérent aussi avec une sorte d'épistémé, avec une sorte d'éthos de l'écriture et de la pensée qui est vraiment celle de l'époque.
Oui, mais là, on touche la limite de l'exercice quand même, pardonnez-moi, mais dire que c'est cohérent avec le texte que de tuer sa femme, c'est inaudible.
Non, mais c'est cohérent en tout cas de disparaître dans son écriture.
Oui, mais pas aux dépens de quelqu'un d'autre.
Pas dépend de quelqu'un d'autre, et c'est là où évidemment Althusser est assez pose un problème, enfin interrompt cette époque.
C'est-à-dire c'est là où la justification intellectuelle trouve des limites.
Ce meurtre n'a pas lieu à n'importe quel moment non plus. Il a lieu en 1980, au moment précisément où tout s'effondre dans la pensée moderne. D'ailleurs, c'est l'année où Barthes meurt, c'est l'année où ça commence à dérailler partout. Dans tous les sens. Et je crois que, en effet, le meurtre, c'est pas un meurtre complètement anodin, qui n'aurait de sens que psychologique, que lié à la personnalité d'Althusser, même si c'est son matériau, mais il prend sens, en tout cas, a posteriori, dans le champ de l'époque, comme moment quand même où des choses s'achèvent. Et où le meurtre, tout le monde est un peu à la limite de soi-même, et Althusser plus que les autres. Parce qu'en plus, il souffre justement aussi de sa condition d'intellectuel communiste, c'est-à-dire de vivre une contradiction absolue, existentielle. D'ailleurs, on pourrait dire que l'intellectuel communiste, ça pourrait être un topos de la seconde moitié du XXe siècle. Je pense au mépris de Godard. Godard fait du héros du mépris un membre du Parti communiste, ce qui n'était pas le cas chez Moravia. Et le héros du mépris, précisément, est assez typique, je dirais, un stéréotype de l'intellectuel communiste. Alors, Althusser pousse très très loin cette contradiction qui est, en adhérant, en s'engageant dans le communisme, il faut s'abolir comme intellectuel, et on vit cette espèce de tension inouïe entre précisément l'adhésion, l'investissement psychique et personnel dans le communisme, et puis la suppression et en même temps réciproque de cette individualité, de cette personnalité.
Le philosophe André Comte-Sponville, qui a suivi les cours d'Althusser, ne dit pas autre chose, Éric Marty. Écoutez-le, c'était en 1990.
Nous avons tous vécu d'abord cet événement tragique qui était l'assassinat de sa femme. Évidemment, très douloureusement, avec beaucoup d'émotions. La chose était à la fois bouleversante et atroce. Et c'est vrai que cela coïncidait avec une forme d'effondrement du Parti communiste, qui n'était pas l'effondrement de la pensée d'Althusser, mais qui malgré tout remettait en cause sur certains points essentiels les pierres d'angle du marxisme et donc les pierres d'angle de la pensée d'Althusser. Et ce double effondrement, celui d'un système, je dirais volontiers, socio-théorico-politique, le marxisme institutionnel, et d'autre part l'effondrement de la pensée d'Althusser, effondrement psychopathologique en l'occurrence, la simultanéité de ces deux effondrements avait quelque chose de frappant. Ce qu'il faut dire, et qui est tout à fait à la gloire ou à l'honneur de Louis Althusser, c'est que de cette simultanéité, il avait conscience, qu'il n'a pas du tout essayé de la fuir, cherchant des je ne sais quel faux fuyant ou quelle explication de mauvaise foi, qu'il a continué à la mesure de ses moyens et dans les accalmies de sa maladie, de penser.
Multiples sont les interprétations de ce meurtre, Eric Marty, politique, intellectuel, psychologique, psychanalytique, puisque Althusser a suivi une cure analytique pendant une dizaine d'années. Il a recommencé une seconde cure ensuite pour tenter d'élucider son enfance. Il nous livre beaucoup d'éléments dans cette autobiographie qui nous permettent de comprendre. Il s'appelle Louis, qui était le nom de l'homme avec que sa femme voulait épouser, qui a été tué sur le front. Elle a épousé son frère, qui l'a violé, si bien qu'elle-même voyait à travers son propre fils l'amour pour un homme qui n'était plus. Enfin, toute la lourdeur de son passé est présente. Mais il y a une façon aussi de, non pas d'expliquer, mais de décrire ce meurtre. Et il y a recours dans cette autobiographie. C'est une sorte de mise en scène théâtrale qui laisse penser que le meurtre, la scène du meurtre avait été préparée depuis bien longtemps et que certains éléments de sa vie n'étaient que des répétitions pour donner lieu à cette ultime représentation. Écoutez ce texte incroyable, interprété par Yvan Morane.
Nous sommes à Saint-Tropez, hébergés chez des amis absents. J'avais invité un ami politique à nous y rendre visite. Il vient accompagné d'une très belle jeune femme sur qui je me jetais. Je lui donne à lire un manuscrit de ma plume. Je propose d'aller sur la plage, une petite plage habituellement déserte, cette fois totalement déserte, car il souffle un violent mistral et la mer est démontée. Pendant ce temps, mon ami reste à la maison, le nez sur mon manuscrit. Sur la plage, devant Hélène qui ne savait pas nager, j'invite la jeune femme à se dévêtir et nous entrons tout nus, tous les deux dans les vagues déchaînées. Hélène crie déjà de peur. Nous nageons un peu au large et là nous faisons quasiment l'amour en pleine mer. Je vois Hélène, complètement affolée, courir sur la plage en criant. Nous avançons plus avant dans les vagues et au moment de revenir, nous constatons que nous sommes pris dans un fort courant qui nous entraîne au large. Nous dûmes faire des efforts insensés, près d'une ou deux heures durant, pour revenir enfin au rivage. Quand nous sommes sur la plage, Hélène a disparu. Après d'interminables courses de recherche, je finis par la découvrir sur le bord de mer, mais loin de la plage, méconnaissable, complètement recroquevillée sur elle-même, tremblant d'une crise quasi hystérique et le visage d'une très vieille femme ravagée de larmes. Finalement, au bout de je ne sais combien de temps, elle ouvre la bouche, mais pour me chasser violemment. « Tu es ignoble. Tu es mort pour moi. Je ne veux plus te voir. Je ne peux plus tolérer de vivre avec toi. Tu es un lâche et un salaud fout le camp. » Je dis de loin à la jeune femme de partir. Je ne l'ai pas revue depuis. Il fallut deux bonnes heures pour qu'Hélène, toujours en larmes et convulsive, accepta de rentrer avec moi à la maison. Jamais il ne fut question entre nous de cet horrible incident, qu'elle ne m'a sûrement jamais pardonné en son âme. Décidément, on ne peut pas traiter ainsi un être humain. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas, dans sa terreur, la peur que je meure dans le courant des vagues, mais une autre peur, plus terrible, celle de la tuer sur place par mon horrible provocation démente.
«
Le récit de cet homme qui nage au large, faire l'amour avec une autre femme, devant son épouse restée sur la plage, qui devient folle, c'est celui de Louis Althusser, lu par Yvan Moran. C'est un extrait de son autobiographie « L'avenir dure longtemps » dont nous parlons aujourd'hui, à l'occasion de cette série sur la vie secrète des philosophes. En votre compagnie, Éric Marty, ce récit produit un malaise. On se demande si Althusser n'est pas finalement... peut-être fou, mais en tout cas pervers, d'assister, de contraindre sa femme d'assister à cette scène, à quelque chose de malaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui est vrai, on peut le préciser maintenant, c'est que l'ambiguïté plane dans son récit quant à la demande d'Hélène de souffrir et de mourir, comme s'il y avait une demande qu'elle lui formulait qui était de la tuer.
Alors, il y a aussi une chose, c'est qu'on ne sait pas si ce récit est vrai. C'est peut-être un récit fantasmagorique, reconstruit, peut-être avec une base réelle, mais la manière dont Althusser raconte le début, notamment lorsqu'ils sont à table et qu'il commence à caresser la jeune fille, à mettre sa main sur son sexe devant son mari, enfin, il y a des choses qui sont peut-être un tout petit peu... Et puis, il y a la dimension... en effet démente de la scène, le côté caractère hyperbolique, cette jouissance dans la mer, ce côté neptunien, cette mise en scène, c'est quand même une page d'écriture aussi.
Oui. C'est peut-être le récit d'un fantasme, voilà. C'est ce que vous dites.
Et l'écriture, à côté du malaise que vous ressentez, que tout le monde ressent, il y a en même temps une fascination difficile à masquer pour l'espèce de génie d'écriture qui va jusqu'à celle de la tuer sur place par mon horrible provocation démente. Et l'expression horrible provocation démente, je crois, quelque chose qui caractérise en effet l'écriture d'Althusser dans l'intensité qu'elle peut parfois atteindre. Donc, ambiguïté sur cette page. Vous savez, à un moment, Althusser écrit « Les hallucinations sont aussi des faits ». Voilà. Et on pourrait penser que cette page est une page complètement hallucinatoire, où l'écriture, tente de recomposer a posteriori le meurtre dans des scènes précédentes qui sont pas seulement des scènes qui marqueraient une sorte de préparation du meurtre, mais par simplement le fait que ça se répète, que le meurtre est au fond un événement qui ne cesse de se répéter. Et c'est aussi ça, une logique d'écriture, je crois, qui est propre à Althusser, c'est ce jeu où la répétition, les moments de folie à deux, mais là, le moment de folie personnelle. La jeune femme, d'ailleurs, n'a aucune importance. Elle est prise comme une sorte d'otage de cette scène à trois. Et c'est là que l'on voit, au fond, dans le meurtre même, cette dimension passionnelle qu'il peut avoir, cette espèce de lien aussi qu'il y a avec la sexualité, qu'il y ait justement cette jouissance libidinale dans la mer même, face à Hélène.
Dans la mer, en plus. Comment l'écrivez-vous? Parce que c'est tout l'enjeu de son amour pour Hélène, qui est une sorte d'amour maternel sublimé.
Et alors, c'est le plus bel acte d'amour qu'il puisse lui donner que, justement, de la tuer par cette horrible provocation démente.
Mais là encore, c'est chose inaudible.
Chose inaudible, sauf qu'il la développe, justement, par l'écriture, et par l'écriture, la rend, en quelque sorte, pas irréfutable, mais impossible à rejeter pour nous, lecteurs. On peut pas ne pas voir, au fond, ce qu'il y a de véridique aussi dans cette page. Et il faut pas oublier que ce moment, cette page somptueuse, donc, de provocation démente, est suivie par un portrait d'Hélène très touchant, plein de pathos, où il parle de... Il cite Trakl en disant, à propos du visage fermé d'Hélène lors des moments d'angoisse et de folie, la douleur pétrifie le seuil, où elle devient l'objet d'un poème sur son visage, qui est le lieu de la fermeture absolue de l'humanité, où le visage est entièrement pétrifié, pour reprendre un mot que j'avais cité au début de l'émission. Donc, on est dans une sorte de dramaturgie qui vise, si vous voulez, je dirais, à poétiser. Alors, je voudrais juste à ce moment-là dire une chose importante, c'est le rapport à Rousseau dans le rapport à la littérature, à la biographie. Il y a un texte admirable d'Althusser sur Rousseau, sur le contrat social, où il met en évidence l'échec absolu, théorique, de Rousseau dans son concept du contrat social, qui remet en fait à l'avenir du contrat sa réalisation, comme lui-même remet à l'avenir la Révolution. Et il fait allusion à ce moment-là à un texte qu'il a écrit anonyme sur la révolution culturelle en 66, texte un peu délirant, où il poussait en quelque sorte les gardes rouges à plus de terreur, à plus de violence, etc. Et on a l'impression qu'on va de Rousseau, il regarde son texte de 66 pour, en quelque sorte, y voir l'impuissance, y voir l'échec. Et à ce moment-là, il écrit que Rousseau a eu cette chance incroyable de transférer ce qu'il appelle l'impossible solution théorique du contrat social ou du communisme, de la transférer dans l'autre de la théorie que la littérature. Et il y a constamment chez Althusser cette idée qu'il y a un autre de la théorie, qu'il y a une altérité, qu'il y a un dehors à la théorie. Et en effet, la littérature, telle que Rousseau a pu la pratiquer, telle que lui la pratique dans l'avenir de longtemps, est cette espèce d'échappatoire à l'échec théorique. Je crois que Althusser est quand même très conscient des impasses dans lesquelles il se trouve, très conscient. Il ne cesse de se rectifier, il ne cesse de s'autocritiquer. Il voit l'espèce de déviation théoriciste qu'il a pu faire, totalement abstraite, structuraliste. Voilà. Il est constamment dans des rectifications permanentes de sa propre pensée, de sa propre théorie. Il voit bien, en effet, qu'il y a des formes d'impasse. Et la littérature et le texte, on pourrait dire au sens moderne du terme, est comme la manière, justement, de dissoudre le caractère au fond, idéologique qu'il peut y avoir dans ces textes théoriques et permettre justement cette espèce de suspension du sens, comme au fond cette scène de meurtre fantasmatique peut en être une dans ces pages de l'avenir de longtemps, parce qu'au fond, le meurtre n'a pas lieu. Nous sommes dans le doute, savoir si c'est vrai ou pas. Nous sommes dans un moment de léger délire, d'une écriture qui, en même temps, par sa beauté, compense l'horreur qu'elle peut susciter. Enfin, bref, il y a un jeu d'Althusser, qu'il rapproche de Rousseau dans l'idée qu'au fond, la littérature va pouvoir, en quelque sorte, le sauver des impasses de la théorie même.
Vous dites que l'écriture est une manière de l'écriture littéraire et non plus philosophique, parce que c'est quand même une conception de la philosophie qui est très idéologique dans ce que vous dites. C'est très systématique. D'ailleurs, Althusser lui-même avait pris acte de ce changement du discours philosophique qui devenait de moins en moins systématique. C'est-à-dire que le communisme s'effondrait et que les structures politiques changeaient. L'écriture serait une sorte d'accompagnement du geste qu'il a fait. Je pense au texte de Foucault sur Rivière, justement, cet individu qui a tué, c'est moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, un cas de parricide au 19e siècle que Foucault publie en 73. Donc c'est dans un village de Normandie, un adolescent qui massacre sa mère enceinte, son frère, sa sœur, et rédige un mémoire sur les faits. Chez Rivière, le meurtre passe par l'écriture. Écoutez comment Foucault en parle, et puis on comparera ensuite avec le meurtre d'Althusser et l'écriture d'Althusser. Éric Marty.
Rivière n'a pu commettre son crime que parce qu'il avait d'abord décidé qu'il le raconterait. Il n'a pas un rapport direct à son crime, il n'a pas désiré d'abord tuer sa mère. Il a d'abord désiré écrire le meurtre de sa mère pour pouvoir la tuer ensuite. Donc le meurtre passe par l'écriture. Et inversement, on peut dire que si Rivière a eu pendant un court laps de temps l'éclat qu'il a eu aux yeux de ses contemporains, si maintenant il peut nous revenir, c'est parce qu'il avait écrit. Autrement dit, l'accès au statut de l'écrivain passe par le meurtre.
On pourrait dire, Éric Marty, qu'Althusser écrit sa biographie comme une archive foucauldienne.
On pourrait le dire, mais je pense qu'il ne faut pas le dire. Parce que, en fait, Foucault a déjà écrit cette archive. Il a écrit, en effet, en 76, 4 ans avant le meurtre, Althusser écrit un texte qui s'appelle Les faits. Au sens précisément foucauldien du terme. Les plus loin faits, ouais. F-A-I-T-S. Au sens foucauldien du terme.
Qu'on trouve à la suite de l'avenir d'Ir longtemps.
Absolument.
Dans l'édition.
Qui est l'archive de sa folie et de sa maladie, de son itinéraire. Mais il me semble que l'avenir de longtemps est un texte anti-foucauldien au sens où il est profondément littéraire. Et que justement, alors que Foucault va vers l'idée de l'archive, des faits, de l'anonymat, des êtres obscurs, Althusser, lui, récupère cela. Et d'ailleurs, il y a une phrase de Althusser qui me paraît très, très importante. Il dit « La folie a écrit Foucault dans son œuvre et l'absence d'œuvre ». Il y a une ironie, évidemment, dans son œuvre, l'absence d'œuvre, c'est-à-dire qu'il met en évidence l'espèce de contradiction ou de mauvaise foi de Foucault à penser l'absence d'œuvre dans le moment même où lui, précisément, où il fait une œuvre. Et je crois que, au fond, Althusser ne recule pas devant la littérature et devant l'écriture, ne serait-ce que le titre même de son livre, L'avenir de mon temps est un titre extraordinairement littéraire, très profondément littéraire, où l'écriture et où la dimension, au-delà de l'esthétique, la dimension de tremblement du sens, d'incertitude du sens, est permise précisément par l'écriture littéraire.
On va écouter sa voix, on ne l'a pas encore entendu Éric Marty, ne serait-ce que pour entendre le contraste entre ce qu'il dit, puisqu'il parle de l'unité de la théorie de la praxis chez Marx, donc un point de vue idéologique, philosophique, quasiment systématique, un court extrait, c'était en 1976, donc 4 ans avant le meurtre, et puis ensuite un dernier extrait de L'avenir dure longtemps, vous verrez le changement de ton, de style, de voix, même si le texte est évidemment écrit et ici lu par Yvan Morane. Prêtez attention à ce que dit le texte, cette manière qu'il a de signaler une forme d'apprentissage qu'aurait engendré ce meurtre, comme s'il pouvait non seulement continuer à penser, à écrire, mais aussi à vivre, peut-être vivre un peu mieux, même si ça ne dure pas longtemps. Mmh. Écoutez donc l'archive, puis le texte.
Si l'on cherche ce que Marx a apporté peut-être de plus profond, c'est, je dirais, l'unité entre sa théorie scientifique et ses positions philosophiques, et cette unité est profondément politique. C'est ce que Marx disait lorsqu'il écrivait dans le Capital cette simple phrase « Mon livre représente une classe, le prolétariat ». C'est ce qu'on appelle dans l'histoire du mouvement ouvrier la fusion de la théorie marxiste et du mouvement ouvrier. Fusion qui ne s'est pas faite par la simple adhésion intellectuelle des prolétaires à la théorie marxiste, mais qui s'est faite à travers des organisations politiques, à travers des partis politiques, à travers une ligne politique élaborée par ces partis politiques. Et je crois que finalement, ce en quoi Marx est toujours actuel, c'est dans la conscience que les problèmes théoriques et les problèmes philosophiques du mouvement ouvrier sont liés à des problèmes politiques. Et que tous les problèmes du marxisme se posent à l'intérieur de cette liaison avec les rapports de force politique.
Le deuil que je vivais d'Hélène, ce n'était pas depuis la mort, la destruction d'Hélène, que je le vivais et travaillais sur lui, mais depuis toujours. En fait, j'avais toujours été en deuil de moi-même, de ma propre mort, par mère et femme interposées. Pour preuve tangible de ne pas exister, j'avais désespérément voulu détruire toutes les preuves de mon existence, non seulement Hélène, la plus haute preuve, mais aussi les preuves secondaires, mon œuvre, mon analyste, et enfin moi-même. Je n'avais pourtant pas remarqué que je faisais dans ce massacre général une exception. Celle de cette amie qui devait m'ouvrir les yeux en me disant tout récemment que ce qu'elle n'aimait pas en moi, c'était ma volonté de me détruire. Ce n'est sans doute pas un hasard, tant j'avais tenté de l'aimer tout autrement que les femmes dans mon passé, elle, de ma vie, la seule exception. Depuis, je crois avoir appris ce que c'est qu'aimer. Être capable non de prendre ses initiatives de surenchère sur soi et d'exagération, mais d'être attentif à l'autre, respecter son désir et ses rythmes, ne rien demander, mais apprendre à recevoir et recevoir chaque don comme une surprise de la vie et être capable, sans aucune prétention, et du même don et de la même surprise pour l'autre, sans lui faire la moindre violence. Pourquoi donc Cézanne a-t-il peint la montagne Sainte-Victoire à chaque instant? C'est que la lumière de chaque instant est un don. Alors la vie peut encore, malgré ses drames, être belle. J'ai 67 ans, mais je me sens enfin, moi qui n'eus pas de jeunesse, car je ne fus pas aimé pour moi-même, je me sens jeune comme jamais, même si l'affaire doit bientôt finir. Oui, l'avenir alors dure longtemps.
Ce sont les dernières lignes du texte que nous venons d'entendre, Éric Marty. Les dernières lignes de l'avenir dure longtemps, ce sont d'ailleurs les derniers mots. On y entend plusieurs idées, notamment le deuil qu'il vivait d'Hélène, dit-il, était en fait un deuil qu'il vivait depuis toujours. Ce deuil précède le meurtre d'Hélène. Et enfin, les dernières lignes qui énoncent une forme de jeunesse retrouvée. J'ai 67 ans, mais je me sens jeune comme jamais, même si l'affaire doit bientôt finir. Une forme d'insolence, peut-être. Là encore, le lecteur ne sait pas quoi penser de ce meurtrier fou qui revit. Ce pour le meilleur à travers le texte.
Oui, alors ce passage-là, c'est un passage parmi tant d'autres où le meurtre est ressassé sous des formes complètement contradictoires et distendues. Ce qui est très à la fois terrible et très beau, c'est la part justement d'involontaire ou de volontaire qu'il y a dans l'écriture d'Althusser à ce moment-là. On peut le voir comme une forme d'insolence, mais insolence tellement énorme qu'elle ne peut pas être tout à fait volontaire. Donc c'est une forme d'absence à soi, d'absence à au réel, qui laisse complètement incertain. Et c'est là où je pense que l'écriture et le concept même d'écriture que les althussériens ne tiennent pas compte est importante. C'est-à-dire que il y a chez Althusser la pensée qu'au fond la vérité et l'identité ne naîtront pas de soi, mais de l'écriture, dans ce qu'elle peut avoir justement de disloqué, de disséminé, de fou, de dérangeant.
Et sans aucune morale.
Sans aucune morale, voilà. Et c'est une forme de vision, en quelque sorte, de la quête autobiographique comme ce qui va vers l'avant et non pas vers le passé. C'est-à-dire que l'acte autobiographique n'est pas du tout, comme on le croit, une sorte de pacte de confiance avec le lecteur qui constituera un tableau du passé, mais c'est un mouvement qui est une répétition vers l'avant, une sorte d'acte d'anticipation sur un sens qui ne peut pas être donné par soi, mais qui va être donné par l'écriture et par l'œuvre, qui va en faire une vérité disséminée et impossible. C'est en ça que, au fond, c'est en ça qu'il est althussérien. C'est-à-dire qu'au fond,
Althusser lui-même.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça doit être noué au réel et non pas à soi. C'est le réel de l'écriture, c'est le réel du livre, c'est le réel des circonstances qui va en fait délivrer une vérité qui elle-même va demeurer jusqu'au bout impossible. C'est parce que c'est le réel qui est le garant de tout ça et non pas soi-même. C'est en ça qu'en effet, pour Althusser, c'est jamais la conscience qui va produire, en effet, la vérité. C'est l'autre de la conscience, l'autre que soi. Et en cela, il est complètement fidèle à pour Marx et à sa pensée propre. Bien sûr, l'écriture est cet autre qui, justement, permet d'imprimer, en quelque sorte, au sens strict, d'imprimer cette vérité sous des formes, justement, je dirais, vraies, plus vraies en tout cas, que la psychologie ne peut le dire.
L'avenir dure longtemps, mais parfois le présent nous rattrape, et c'est le cas de notre émission qui s'achève. Éric Marty, on se quitte avec un autre récit similaire d'un homme qui en vient à tuer sa femme, cette fois-ci près de la rivière, c'est Neil Young. Bien sûr, c'est pas Neil Young lui-même qui a tué sa femme, c'est le chanteur, le narrateur de cette chanson. Donc, merci à vous, Éric Marty, d'être venu nous parler d'Althusser aujourd'hui.
Merci.
Je renvoie les auditeurs à votre livre Louis Althusser, un sujet sans procès, anatomie d'un passé très récent, chez Gallimard, et puis donc à l'autobiographie d'Althusser, L'avenir dure longtemps, suivi de Les faits, vous en avez parlé, aux éditions Stock, sur France Culture, Les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Alors en ce lundi de Pentecôte, une question vous taraude Géraldine.
Oui, qu'est-ce que la réalité? Oui, en c'est effet. Une question vaste et rude, mais que l'on doit poser tant le terme est omniprésent. On regarde de la télé-réalité ou on veut de l'analyse du réel. On se demande ce qu'est la réalité virtuelle ou augmentée. Les politiques ne cessent d'opposer la réalité du monde aux principes et idéaux. Rien de plus normal d'ailleurs que la réalité soit omniprésente, puisque par définition, c'est tout ce qui existe effectivement, nous y compris. Mais alors, comment saisir cette réalité qui nous entoure et que nous sommes? Est-elle vraiment opposée à l'idéalisme, au rêve et à l'imaginaire? Et l'invoquer, est-ce forcément se soumettre à elle?
Eugène Onieguin, mon ami très cher, naquit sur les bords de la Neva où moi-même, Alexandre Pouchkin, je me plus bien souvent à errer. Mais le norme est néfaste. Son père avait vécu de dette. Cet homme distingué donnait 3 balles par an et pour finir, il se ruina. La fortune souriait à Eugène. D'abord, madame s'occupa de lui.
Guénia, mon enfant, tenez-vous donc tranquille.
Cette question sur la réalité m'est venue non pas en lisant la presse ou en écoutant des hommes politiques, mais oui en lisant le philosophe Léon Chestov et son recueil « L'homme pris au piège » qui rassemble 3 essais de lui traitant respectivement de Pouchkine, Tolstoï et Tchekhov. Et c'est à propos de Pouchkine et de son roman Eugène Onéguin, dont on vient d'entendre l'incipit, que Chestov évoque cette fameuse opposition entre réalisme et idéalisme. Car Pouchkine, auteur du 19e siècle, mort en duel, serait celui qui aurait définitivement réglé ce problème stérile. Mais alors comment? Eh bien, en confrontant son héros, Onéguin, non pas à la dure réalité, comme les lois de la nature ou la logique des choses, mais à la dure réalité de l'idéalisme. Et oui, son personnage ne bute pas sur la ruine, l'état du monde ou l'impitoyable loi de la gravitation, par exemple, mais sur Tatiana, le seul personnage qui a la foi, la seule qui est un idéal en lequel elle croit dur comme fer.
Aniuta est une femme remarquable, extraordinaire. Elle a pour moi changé de religion, quitté ses parents. Elle a renoncé à la richesse et si je lui demandais 100 autres sacrifices, elle les ferait sans broncher. Et moi, je ne suis remarquable en rien. Je n'ai rien sacrifié. C'est une longue histoire. Mais tout se ramène à ceci. Docteur, que... En un mot, je me suis marié par passion, en lui jurant de l'aimer toujours. Mais 5 ans ont passé, elle m'aime encore et moi. Vous me dites qu'elle mourra bientôt, je ne ressens cette nouvelle. Ni amour, ni pitié, rien que le vide, l'accablement.
Nous voilà, grâce à Chestov, avec 2 choses résolues. La réalité n'est pas opposée à l'imaginaire, puisqu'on la trouve chez des écrivains ou dans leur fiction, ni à l'idéalisme. La dure réalité, c'est parfois en effet l'idéalisme, la croyance, la foi indémontrable et irrationnelle. Mais une autre question que pose la réalité, c'est doit-on forcément s'y soumettre? Est-elle cet argument implacable qui fait que l'on doit renoncer et se laisser abattre? Et cette fois-ci, c'est une question qui apparaît en se plongeant dans Tchekhov et dans sa pièce Ivanov, dont on vient d'entendre un extrait. Ivanov, comme on l'a entendu justement, c'est monsieur tout le monde, c'est vous, c'est moi. Il a tout, femme, terre, enfant, et en même temps, il n'a rien. Voué à l'impuissance, au désamour, au tragique et à la mort, à la réalité en sorte, il doit pourtant continuer à vivre. Mais que faire quand la réalité nous frappe? Eh bien, c'est l'enjeu pour Ivanov, et voici ce que Tchekhov nous dit. Eh bien, quand l'homme n'a plus rien, il doit tout créer lui-même, il doit créer de rien, ex nihilo.
Il est minuit, Ivan. Vous n'allez tout de même pas vous remettre au travail, c'est insensé.
Insensé? Pourquoi, je vous prie?
Parce que vous devez vous coucher. Vous n'avez pas bonne mine ces jours-ci.
Vous trouvez?
Oui. Vous avez le teint gris et les yeux cernés. Vous êtes peut-être malade?
Oh non, non, on ne peut pas qualifier de maladie cette lourdeur que je sens dans le ventre. Il est vrai que j'ai aussi des aigreurs.
Vous voyez? Si j'étais vous, j'irais voir un médecin.
De grâce, Praskovia, épargnez-moi vos conseils. D'ailleurs, que vous importe si je suis bien portant ou souffrant?
Soyez calme, je vous en prie.
Dernière question sur la réalité, et pas la plus simple, quelle est-elle? Comment la saisir? Car si la réalité, c'est ce qui s'impose à nous, nous résiste, existe effectivement, de la chute des corps à la mort, comme celle à laquelle est confronté Ivan Ilitch, comment l'embrasser? Eh bien, pour y répondre, finissons en beauté avec Tolstoï et la mort d'Ivan Ilitch, justement. comme Tchekhov et Pushkin, pour Tolstoï, être réaliste, ce n'est renoncer ni à l'imaginaire, ni à la vie, bien au contraire. Car c'est au cœur même du réel que peut s'extraire, selon lui, la foi en la vie. Et pour y croire, je vous laisse avec quelques secondes, même de mauvaise qualité, mais vous pouvez jouer avec votre imaginaire, de la voix de Tolstoï. C'est un enregistrement de 1909.
Спасибо, ребята. Заходите ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не шевелитесь.
Quel cadeau vous nous faites, Géraldine, Eugène Onéguin, Ivanov de Tchekhov, La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, ces trois textes absolument remarquables.
Qu'on a envie de relire et on a envie de lire. Chestov, Léon Chestov, L'homme pris au piège, Pushkin, Tolstoï, Tchekhov, c'est paru chez Titre, chez Christian Bourgois, éditeur, et c'est traduit du russe par Sylvie Luneau et Boris de Scholzer.
C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Maud Markiewicz qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, David Pargamin, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoy, Yvan Moran à la lecture des textes cette semaine, Nicolas Berger à la réalisation, Pierrick Monsigny à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur la vie secrète des philosophes. Après le non-procès de Louis Althusser aujourd'hui, demain nous parlerons du silence coupable de Maurice Blanchot. Ce sera l'écrivain et philosophe Michel Suria qui viendra vous en parler. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.